RFI, grand reportage, Marie Casadebé.
Dans le nord-est de la RDC, près de 70 groupes armés seraient actifs dans le Nord Kivu. Parmi eux, les Ougandais des ADF, un groupe fondé en 1995 sur les principes religieux de l'islam, avec pour but de renverser le pouvoir du président ougandais Museveni. Aujourd'hui, les ADF n'ont plus de réelle position dans leur pays d'origine, leur leader est en prison. Mais même affaibli, le groupe est accusé de certains assassinats à Kampala et surtout de tueries commises dans l'est de la RDC, autour de Beni. Ouganda, RDC, l'énigme ADF, un grand reportage signé Charlotte Cossé.
Marché du petit village de Kanyampara, au pied du Rwenzori. Cette chaîne montagneuse marque la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Des sommets qui culminent à plus de 5000 mètres d'altitude, elles ont longtemps été le fief de la rébellion ADF. Elles se dressent, vertes et mystérieuses. Au début des années 2000, l'armée ougandaise repousse la rébellion qui se réfugie alors au Congo. Crispus était l'un de ces rebelles. Il est revenu en Ouganda il y a tout juste 2 ans. Il raconte comment la rébellion menait des incursions en Ouganda depuis le Congo.
Nous avions l'habitude de venir chercher des choses en Ouganda, mais je ne savais pas comment les achats s'organisaient. Par contre, nous menions des opérations en Ouganda. J'y ai participé 3 fois. Nous volions dans les pharmacies le long de la frontière. On a pris des médicaments et on les a ramenés au Congo. Dans notre groupe, il y avait quelques personnes qui avaient des compétences médicales. Ils sont devenus nos médecins. On volait des médicaments, de la nourriture, etc.
Si aucune attaque sur les civils n'a été commise en Ouganda depuis plusieurs années, des centaines de crimes sont imputés à l'ADF côté congolais. La rébellion est systématiquement pointée du doigt dans les séries de massacres commis dans l'est de la RDC. Le rapport des experts de l'ONU de mai 2016 cite une source qui révèle qu'au moins 550 civils ont été tués dans la région de Beni depuis septembre 2014. La société civile évoque un chiffre de victimes 2 fois supérieur. Ceci malgré la présence de l'armée congolaise, les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Face à ces violences incessantes et terriblement meurtrières, en février dernier, sous l'égide de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, un mécanisme conjoint de lutte contre les ADF a été lancé. Un centre de renseignement a été inauguré sous une pluie battante à Kasese, une petite ville près de la frontière congolaise. Richard Karimire, le porte-parole de l'armée ougandaise, explique les objectifs d'un tel mécanisme.
Chaque État partie va mettre à disposition 2 officiers qui ont une expérience dans les services de renseignement. Donc il y aura 2 officiers en provenance d'Ouganda, 2 du Congo, 2 de Tanzanie et 2 du Kenya. Ils travailleront ensemble. Au début, l'Ouganda sera à la tête de cette équipe. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire avec certitude qui est le leader des ADF. Cette équipe va chercher à découvrir ce qu'il en est des ADF depuis l'arrestation de leur leader, Jamil Mukulu. Le mécanisme va vraiment apporter la synergie nécessaire. 2 têtes valent toujours mieux qu'une. Donc, nous espérons obtenir de meilleurs renseignements afin de devenir plus opérationnels et ainsi mener des opérations plus efficaces contre les ADF.
Une rébellion dont les forces ne sont évaluées qu'à quelques centaines d'hommes. Pourtant, impossible pour les différentes forces sur le terrain d'en venir à bout. Richard Karimire est conscient du paradoxe.
Pourquoi cela prend autant de temps? C'est une grande question à laquelle le centre devra répondre. Qu'est-ce qui fait que les ADF sont toujours actifs dans la région? C'est l'une des questions clés que nous souhaitons voir démêlées par ce centre.
Éliminer les ADF pour stopper les massacres au Congo, mais aussi pour lutter contre l'avancée supposée du djihadisme dans la région. Zakari Mouburu Mouita est le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il défend la thèse islamiste tout en restant très vague.
Well, there certainly have been a renewed activity by the ADF. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu un renouveau des activités des ADF ces derniers mois. Ils sont à l'origine de nombreuses atrocités parmi les populations civiles de l'Est du Congo. Le président de la RDC est venu ici en Ouganda et a rencontré son homologue pour évoquer la lutte contre les activités des ADF. Et c'est l'une de nos plus grandes inquiétudes. Il y a des informations en provenance des services de renseignement qui affirment qu'ils ont établi des liens avec des organisations terroristes telles qu'Al-Shabaab. C'est un problème vraiment alarmant. De plus, pour la plupart des autres groupes négatifs, vous pourriez penser qu'ils sont locaux, qu'ils ont un agenda politique local au Congo ou potentiellement transfrontalier. Mais maintenant, il semble que cela se diffuse comme des tentacules à travers la région. Et c'est pourquoi les chefs d'État ont appelé à avoir une stratégie contre le terrorisme, notamment pour contrer les activités ADF. Les renseignements sont là. Je sais que certaines sources, notamment les sources occidentales, ne sont pas d'accord, mais les autorités régionales sont pleinement convaincues qu'il y a des contacts, des liens avec les islamistes et les terroristes.
L'ADF, un mouvement rebelle ougandais fondé sur les bases de la mouvance Tablighi, un mouvement islamiste piétiste originaire d'Inde qui s'est implanté en Ouganda. Crispus, l'ancien rebelle, raconte la pratique de l'islam au sein de la rébellion qui pour lui n'a rien d'extrémiste.
On nous a donné des leçons islamiques, des leçons sur le Coran. On nous a appris à prier 5 fois par jour, mais je ne peux pas dire que tout le temps était consacré à nous islamiser. La plupart du temps était en réalité voué à la lutte et au combat. Mais bien sûr, en temps ordinaire, nous devions pratiquer l'islam, faire la prière, lire le Coran et apprendre l'arabe. Mais je ne peux pas dire que c'était l'essentiel de ce que l'on faisait dans la rébellion.
Aucun lien n'a pu être établi par le groupe d'experts des Nations Unies avec des groupes terroristes étrangers. Thierry Vircoulon est chercheur à l'Institut français des relations internationales et co-auteur d'une récente étude sur l'ADF. Il met en doute la version officielle affirmant qu'un lien existe entre ADF et Al-Shabaab.
En fait, on n'a trouvé aucun lien avec les Shabaab. On a trouvé des liens avec des mouvements islamistes d'Afrique de l'Est. Jamil Mukulu, qui était le chef des ADF, a été arrêté en 2015 en Tanzanie. Et il est clair qu'il circulait dans les milieux islamistes de Tanzanie et du Kenya. Mais avec la Somalie, on n'a trouvé aucun lien. Et quand on regarde un peu le comportement des ADF, on se rend compte que c'est un groupe qui est complètement atypique par rapport aux autres groupes djihadistes qu'on connaît en Afrique, que ce soit les Shabaab, Boko Haram ou Acmi. C'est un groupe qui ne fait absolument aucune propagande et aucune communication sur le net, ne cherche pas à convertir les gens, qui n'affichent pas une certaine la conception salafiste de l'islam. La stratégie des ADF n'est pas une stratégie expansionniste, comme par exemple la stratégie de Boko Haram, on a vu, qui à partir du nord-est du Nigeria a essayé de s'étendre sur les autres pays de la zone. Au contraire, eux, ils sont dans une logique de repli et de sanctuarisation, c'est-à-dire qu'ils interdisent un certain territoire, donc une zone frontalière, à toute présence villageoise et autres. Ils ont tué des gens, rien que pour faire l'exemple, en disant voilà, il ne faut pas rentrer dans notre territoire, etc. Donc eux, au lieu d'essayer de s'étendre, ils se referment sur eux-mêmes et se replient.
Selon les autorités ougandaises et congolaises, le groupe rebelle est très actif dans l'est de la RDC et s'attaque principalement aux civils depuis plus de 2 ans. L'ex-rebelle Crispus donne une version différente.
Quel ADF tue ? Quand notre mouvement est devenu vraiment faible, nous avions décidé de vivre comme des membres de la communauté congolaise. Comment pourrions-nous tuer des gens qui nous accueillaient ? Les ADF ne tuent personne. Au sein des ADF, celui qui veut rentrer chez lui y est même autorisé parce que nous avons été tellement affaiblis. Nous ne pouvons pas tuer des gens qui nous accueillent, avec qui nous vivons. Les ADF ont commencé à être faibles quand notre chef, Kabanda, a disparu. On ne savait même pas s'il était mort. À cette époque, les ADF qui vivaient dans des petits camps les ont abandonnés et ont commencé à acquérir des terres dans les communautés afin de cultiver et de produire leur propre nourriture. Ils avaient perdu l'espoir. Donc, je ne peux pas dire vraiment combien il y a encore d'ADF, parce que beaucoup ont quitté les camps pour vivre dans les communautés. Certains se sont mariés avec des femmes congolaises et ont construit de nouvelles familles. Certains avaient encore de l'espoir parce que Jamil Mukulu leur promettaient de l'aide qu'ils mobilisaient grâce à la communauté internationale. Lorsque nous avons appris qu'il avait été arrêté, c'est à ce moment-là, moi y compris, que nous avons pensé que la guerre était perdue. Il n'y a pas de groupe ADF qui soit organisé.
Les ADF ont en grande partie été défaits en 2014 par l'opération Soukola 1, nettoyée en Lingala. Les principales bases arrières des ADF ont été démantelées par l'armée congolaise en 6 mois, dont la plus importante, Madina. L'officier congolais qui a mené cette opération, le général Bauma, tombe malade alors qu'il est en visite en Ouganda. Il est évacué en Afrique du Sud et meurt peu de temps après. À l'époque, ses partisans dénoncent un empoisonnement et pointent du doigt Kampala, suspecté d'entretenir la rébellion. Motif, les ADF serviraient de convoyeurs pour les minerais du Congo exportés en Ouganda. Les effectifs ADF sont réduits à peau de chagrin par l'armée congolaise. Pourtant, en 2014, les massacres se font plus intenses. La rapidité avec laquelle le groupe s'est reformé surprend. Comment se sont-ils reconstitués si vite et pourquoi mènent-ils ces raids sur la population ? Christian, cet habitant congolais, impliqué dans la vie de sa localité, a passé la frontière ougandaise pour venir nous parler. Il n'est pas convaincu par la thèse ADF. Il évoque la présence de nombreux groupes rebelles dans la région et fait référence à des rébellions défaites, comme celle du M23.
Bon, les problèmes des ADF est un peu compliqué parce qu'ils sont au Congo. Mais dire que ce sont eux qui tuent les gens, qui massacrent les gens, il y a des doutes. Peut-être que c'est, hein, comment, c'est le bouc émissaire qu'on utilise pour faire voir la population que ce sont les ADF. Comme on sait que ces gens vivaient depuis longtemps dans le parc national de Virunga, on pense qu'en avançant de tels arguments, les gens peuvent être convaincus que ce sont eux qui tuent les gens.
Christian justifie ses doutes.
Bon, les ADF sont de tendance musulmane. Comment ils peuvent arriver à pied même des cochons, des porcs? Vous voyez, donc c'est là que de telles ambiguïtés nous amènent à dire non, ce ne sont pas des ADF qui tirent. C'est un autre mouvement qui est là, qui est caché. Dernièrement, quand on a suivi les déclarations de...
Le groupe d'experts des Nations Unies relève que le mouvement ADF a évolué. Le groupe ougandais d'origine s'est divisé en différentes factions. Certaines ont été rejointes par ce qu'ils appellent les nouveaux venus. Parmi eux, beaucoup de Congolais. La rébellion se compose un nouveau visage, d'autant plus facilement que l'ADF s'était allié aux rebelles Nalu, un groupe composé à majorité de l'ethnie ougandaise Bakonzo, proche des Nandés congolais, juste de l'autre côté de la frontière. Ils étaient soupçonnés de poursuivre un rêve fou, bâtir leur propre état, l'Irastet. Aujourd'hui, le Congo est en pleine crise. Les assaillants sont soupçonnés d'être de connivence avec des acteurs politiques congolais. Les procès de Beni ont soulevé la question. Ils se sont aussi interrogés sur d'éventuelles connivences avec l'armée congolaise. Les populations pointent du doigt l'incapacité des forces nationales à lutter contre ces rebelles et y voient un signe de complicité. Les Nations Unies ont mis en exergue le rôle de certains soldats congolais dans les massacres. L'ADF, un groupe tueur proche des mouvements islamistes. C'est ainsi qu'il est décrit par les différentes autorités de la région. Mais ces rebelles sont invisibles, ne communiquent pas, ne revendiquent aucune action. Nous ne connaissons même pas leur chef. Une menace ADF contre le Congo et l'Ouganda qui ne semble pas si facile à démontrer. Comme on crie au loup dans la région, on crie aux ADF sans jamais les voir, sans jamais les entendre. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, entretenir cette menace est bien utile.
Ce qui alimente ce fantasme-là, ce sont essentiellement les gouvernements congolais et ougandais, pour lesquels je pense les ADF sont une menace extrêmement utile. Alors pour le gouvernement ougandais, qui est en lutte contre eux depuis 20 ans, c'est devenu une sorte d'ennemi naturel. Mais ce qu'on note, c'est que ça fait déjà plusieurs années que les ADF n'ont pas été capables de mener une opération sur le territoire ougandais. Et puis pour le gouvernement congolais, qui est très impopulaire, c'est une façon de présenter une menace sécuritaire étrangère, parce que le gouvernement congolais insiste toujours sur le fait que les ADF viennent d'Ouganda, ce sont des étrangers, etc. Alors que quand on est un groupe armé installé dans un pays depuis 20 ans, on s'est largement enraciné dans le pays, et donc il y a eu une congolisation, et donc c'est un avantage pour n'importe quel gouvernement en situation de faiblesse et qui a besoin d'être bien vu sur la scène internationale, de dire ben voilà, je suis sous la menace du terrorisme islamiste.
Une une menace qui, côté ougandais, semble aussi avoir son utilité. Nicolas Sopio est un défenseur des droits de l'homme et avocat à la tête de l'organisation Chapter 4, dédiée à la protection des libertés civiles en Ouganda. Régulièrement menacé, son bureau est particulièrement sécurisé.
Pour moi, les ADF ne représentent pas une menace incroyable, telle qu'on cherche à nous le faire croire. Ou en tout cas, le gouvernement n'a pas présenté de preuves validant la véracité d'une telle menace. Donc l'ouverture de ce centre à KCC et l'argent investi dans celui-ci pourrait s'expliquer dans le cadre d'une stratégie politique internationale pour attirer des fonds, notamment, alors qu'en réalité, la présence ADF n'est appuyée par aucun fait et aucune preuve.
Le mouvement ADF est inscrit sur la liste des groupes terroristes des États-Unis. Malgré ces demandes répétées, RFI n'a pu obtenir le détail du potentiel support des Américains dans la lutte contre l'ADF. Mais selon un de leurs rapports récents, les États-Unis investissent près de 280 millions de dollars pour assurer la stabilité de l'Ouganda. Plus de 5000 soldats ougandais ont reçu des formations pour des opérations de soutien au maintien de la paix. La menace ADF est régulièrement brandie dans la capitale ougandaise. De nombreux meurtres à Kampala ont été attribués à la rébellion, et notamment celui de l'inspecteur général adjoint de police, Félix Kawesi, en mars dernier. Une version officielle qui, là aussi, laisse perplexe Nicolas Sopio.
I think for a very long time, the Ugandan police have used the ADF.
Je pense que depuis longtemps, la police ougandaise utilise les ADF comme une excuse pour d'odieux crimes qui sont commis dans le pays, pour leur incapacité à enquêter correctement et à porter devant la justice la grande criminalité. Pour moi, c'est un peu curieux. C'est une diversion qui est utilisée pour détourner les questions qui entourent ces crimes. Je pense que ces éléments ADF, s'ils existent vraiment, sont vraiment peu nombreux et évidemment dépourvus de ressources parce que le leader des ADF a été arrêté, il est en prison. Donc d'où les ADF tireraient-ils leur contrôle et leurs ressources?
Because the ADF leader has been arrested, is in jail. So where does the ADF get control and resources?
Une rébellion aujourd'hui très mystérieuse, de nombreuses réponses pourraient venir de Jamil Mukulu lui-même, l'ancien chef de la rébellion ADF, incarcéré dans la prison de Luzira depuis 2015. Après son arrestation en Tanzanie, il n'a toujours pas été jugé. Pour Nicolas Sopio, les autorités cherchent à garder le contrôle du récit concernant les ADF.
The case of Jamil Mukulu has not been, it seems to have gotten away from public radar.
Le cas de Jamil Mukulu semble avoir été éloigné des radars. Il semble qu'il n'ait même pas été présenté devant la cour. Cela semble signifier que l'État n'est pas prêt à le poursuivre parce qu'ils n'ont pas les preuves. Et à moins que l'on attire l'attention sur ce cas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mukulu est en prison, aucun procès n'est en cours, il n'a même pas accès à sa famille. Je ne pense pas que quelque chose va se passer à moins qu'il n'ait des preuves. Ou alors s'ils ont des preuves, peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes pour traduire en justice Jamil Mukulu. Son procès devrait éclaircir beaucoup de choses sur les ADF et les UPDF que l'on ne sait peut-être pas. Donc je pense que l'État ougandais n'est pas préparé à un procès sur lequel il n'a aucun contrôle, c'est-à-dire pas de preuves et pas de scénario officiel. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle le procès a été reporté autant que possible.
Les liens entre ADF et UPDF n'ont pas été prouvés, mais des soupçons de complicité, notamment dans les divers trafics frontaliers, notamment d'or et d'ivoire, sont régulièrement mis en avant. En 2016, l'or est devenu la deuxième exportation en termes de valeur en Ouganda. Global Witness, dans un récent rapport, s'alarme qu'une grande part provienne des zones de conflit, notamment de l'est de la RDC. Alors, qui tue aujourd'hui dans la région de Beni? La population doute des explications officielles qui lui sont fournies. Le groupe originaire des ADF a perdu une bonne partie de son pouvoir de nuisance. Il a été privé de sa hiérarchie et nombre de ses membres sont rentrés en Ouganda ou se sont intégrés aux populations locales. Les massacres sont-ils commis par d'autres milices ou des militaires? Et dans ce cas, pour quelles raisons? Politiques? Foncières? Pour le contrôle des ressources minières et naturelles? La réponse reste pour l'instant cachée dans les montagnes du Rwenzori. Ouganda RDC, l'énigme ADF, un grand reportage de Charlotte Cossé et Sandrine Straram.